Considération sur la Révolution française par Madame de Staël. Sixième partie. Chapitre 1er. Les Français sont-ils faits pour être libres ? Les Français ne sont pas faits pour être libres, dit un certain parti parmi les Français qui veut bien faire les honneurs de la nation au point de la représenter comme la plus misérable des associations d'hommes. Qu'y a-t-il en effet de plus misérable que de n'être capable ni de respect pour la justice, ni d'amour pour la patrie, ni de force d'âme, vertu dont la réunion, dont une seule peut suffire pour être digne de la liberté ? Les étrangers ne manquent pas de s'emparer d'un tel propos et de s'en glorifier, comme s'ils étaient d'une plus noble race que les Français. Cette ridicule assertion ne signifie pourtant qu'une chose, c'est qu'il convient à de certains privilégiés d'être reconnus pour les seuls qui puissent gouverner sagement la France et de considérer le reste de la nation comme des factieux. C'est sous un point de vue plus philosophique et plus impartial que nous examinerons ce qu'on entend par un peuple fait pour être libre. Je répondrai simplement, c'est celui qui veut l'être. Car je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire l'exemple d'une volonté de nation qui n'ait pas été accomplie. Les institutions d'un pays, toutes les fois qu'elles sont au-dessous des lumières qui y sont répandues, tendent nécessairement à s'élever au même niveau. Or, depuis la vieillesse de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, l'esprit et la force ont été chez les particuliers, et le déclin dans le gouvernement. Mais, dira-t-on, les Français, pendant la Révolution, n'ont pas cessé d'errer entre les folies et les forfaits. S'il en était ainsi, il faudrait s'en prendre, je ne saurais trop le répéter, à leurs anciennes institutions politiques, car ce sont elles qui avaient formé la nation. Et si elles étaient de nature à n'éclairer qu'une classe d'hommes et à dépraver la masse, elles ne valaient assurément rien. Mais le sophisme des ennemis de la raison humaine, c'est qu'ils veulent qu'un peuple possède les vertus de la liberté avant de l'avoir obtenue, tandis qu'il ne peut acquérir ces vertus qu'après avoir joui de la liberté, puisque les faits ne sauraient précéder la cause. La première qualité d'une nation qui commence à se lasser des gouvernements exclusifs et arbitraires, c'est l'énergie. Les autres vertus ne peuvent être que le résultat graduel d'institutions qui aient duré assez longtemps pour former l'esprit public. Il y a eu des pays comme l'ancienne Égypte, où la religion, s'étant identifiée avec la politique, a imprimé aux mœurs et aux habitudes des hommes un caractère passif et stationnaire. Mais, en général, on voit les nations se perfectionner ou se détériorer, suivant la nature de leur gouvernement. Rome n'a point changé de climat, et cependant, depuis les Romains jusqu'aux Italiens de nos jours, on peut parcourir toute l'échelle des modifications que les hommes subissent par la diversité des gouvernements. Sans doute, ce qui constitue la dignité d'un peuple, c'est de savoir se donner le régime qui lui convient. Mais cette œuvre peut rencontrer de grands obstacles, et l'un des plus grands est sans doute la coalition des vieux États européens pour arrêter le progrès des idées nouvelles. Il faut donc juger avec impartialité les difficultés et les efforts avant de prononcer qu'un peuple n'est pas fait pour être libre, ce qui, dans le fond, est une phrase vide de sens. Car peut-il exister des hommes auxquels la sécurité, l'émulation, le développement paisible de leur industrie et la jouissance non troublée des fruits de leurs travaux ne conviennent pas ? Et si une nation était condamnée, par une malédiction du ciel, à ne pratiquer jamais ni la justice ni la morale publique, pourquoi une partie de cette nation se croirait-elle exempte de la malédiction prononcée sur la race ? Si tous sont également incapables d'aucune vertu, quelle partie contraindra l'autre à en avoir ? depuis 25 ans, dit-on encore, il n'y a pas eu un gouvernement fondé par la Révolution qui ne se soit montré fou ou méchant. Soit, mais la nation a été sans cesse agitée par les troubles civils, et toutes les nations dans cet état se ressemblent. Il existe dans l'espèce humaine des dispositions qui se retrouvent toujours quand les mêmes circonstances les produisent au dehors. Mais s'il n'y a pas eu une époque de la Révolution à laquelle le crime n'ait eu sa part, il n'y en a pas une aussi où de grandes vertus ne se soient développées. L'amour de la patrie, la volonté d'assurer son indépendance à tout prix, se sont manifestés constamment dans le parti patriote. Et si Bonaparte n'avait pas énervé l'esprit public en introduisant le goût de l'argent et des honneurs, nous aurions vu sortir des miracles du caractère intrépide et persévérant de quelques-uns des hommes de la Révolution. Les ennemis même des institutions nouvelles, les Vendéens, ont montré le caractère qui fait les hommes libres. Quand on leur offrira la liberté sous ses véritables traits, ils s'y rallieront. Une résolution vive et un esprit ardent existent et existeront toujours en France. Il y a des âmes puissantes parmi ceux qui veulent la liberté. Il y en a parmi les jeunes gens qui s'avancent, les uns dégagés des préjugés de leurs pères, les autres innocents de leurs crimes. Quand tout se voit, quand tout se sait dans l'histoire d'une révolution, quand les intérêts les plus actifs excitent les plus violentes passions, il semble aux contemporains que rien de pareil n'ait souillé la face de la terre. Mais quand on se rappelle les guerres de religion en France et les troubles de l'Angleterre, on aperçoit sous d'autres formes le même esprit de parti et les mêmes forfaits produits par les mêmes passions. Il me semble impossible de séparer le besoin d'un perfectionnement social du désir de s'améliorer soi-même. Et pour me servir du titre de l'ouvrage de Bossuet, dans un sens différent de celui qu'il lui donne, la politique est sacrée, parce qu'elle renferme tous les mobiles qui agissent sur les hommes en masse et les rapprochent ou les éloignent de la vertu. Nous ne pouvons nous le dissimuler, cependant. L'on n'a encore acquis en France que peu d'idées de la justice. On n'imagine pas qu'un ennemi puisse avoir droit à la protection des lois quand il est vaincu. Mais, dans un pays où pendant si longtemps la faveur et la disgrâce ont disposé de tout, comment saurait-on ce que c'est que des principes ? Le règne des cours n'a permis aux Français que le développement des vertus militaires. Une classe très resserrée se mêlait seule des affaires civiles, et la masse de la nation, n'ayant rien à faire, n'a rien appris et ne s'est point exercée aux vertus politiques. L'une des merveilles de la liberté anglaise, c'est la multitude d'hommes qui s'occupent des intérêts de chaque ville, de chaque province, et dont l'esprit et le caractère sont formés par les occupations et les devoirs de citoyens. En France, on avait l'occasion de s'exercer qu'à l'intrigue, et il faut longtemps avant d'oublier cette malheureuse science. L'amour de l'argent, des titres, enfin de toutes les jouissances et de toutes les vanités sociales, a reparu sous le règne de Bonaparte. C'est le cortège du despotisme. Dans les fureurs de la démagogie, au moins, la corruption n'était de rien. Et sous Bonaparte lui-même, plusieurs guerriers sont restés dignes par leur désintéressement, du respect que les étrangers ont pour leur courage. Sans reprendre ici la malheureuse histoire de nos désastres, disons-le donc hardiment. Il y a dans la nation française de l'énergie, de la patience dans les mots, de l'audace dans l'entreprise, en un mot de la force. Et les écarts en seront toujours à craindre, jusqu'à ce que des institutions libres face de cette force, aussi, de la vertu. De certaines idées communes mises en circulation sont souvent ce qui égare le plus le bon sens public, parce que la plupart des hommes les prennent pour des vérités. Il y a si peu de mérite à les trouver qu'on est tenté de croire que la raison seule peut les faire adopter à tant de gens. Mais dans les temps de parti, les mêmes intérêts inspirent les mêmes discours, sans qu'ils acquièrent plus de vérité la 100e fois qu'on les prononce. Les Français, dit-on, sont frivoles, les Anglais sont sérieux. Les Français sont vifs, les Anglais sont graves. Donc il faut que les premiers soient gouvernés despotiquement et que les autres jouissent de la liberté. Il est vrai que, si les Anglais luttaient encore pour cette liberté, on leur trouverait mille défauts qui s'y opposeraient. Mais le fait, chez eux, a réfuté l'argument. Dans notre France, les troubles sont apparents, tandis que les motifs de ces troubles ne peuvent être compris que par les hommes qui pensent. Les Français sont frivoles parce qu'ils ont été condamnés à un genre de gouvernement qui ne pouvait se soutenir qu'en encourageant la frivolité. Et quant à la vivacité, les Français en ont dans l'esprit bien plus que dans le caractère. Il y a chez les Anglais une impétuosité d'une nature beaucoup plus violente, et leur histoire en offre une foule de preuves. Qui aurait pu croire, il y a moins de 2 siècles, que jamais un gouvernement régulier pût s'établir chez ces factieux insulaires? On ne cessait alors, sur le continent, de les en déclarer incapables. Ils ont déposé, tué, renversé, plus de rois, plus de princes et plus de gouvernements que le reste de l'Europe ensemble. Et cependant, ils ont enfin obtenu le plus noble, le plus brillant et le plus religieux ordre social qui soit dans l'Ancien Monde. Tous les pays, tous les peuples, tous les hommes sont propres à la liberté par leurs qualités différentes. Tous y arrivent, ou y arriveront, à leur manière. Mais, avant d'essayer de peindre l'admirable monument de la grandeur morale de l'homme que l'Angleterre nous présente, jetons un coup d'œil sur quelques époques de son histoire, semblables en tout à celles de la Révolution française. Peut-être se réconciliera-t-on avec les Français quand on verra en eux les Anglais d'hier. Chapitre 2. Coup d'œil sur l'histoire d'Angleterre. Il m'est pénible de représenter le caractère anglais à son désavantage, même dans les temps passés. Mais cette nation généreuse écoutera sans peine tout ce qui lui rappelle que c'est à ses institutions politiques actuelles, à ses institutions que d'autres peuples peuvent imiter, qu'elle doit ses vertus et sa splendeur. La vanité puérile de se croire une race à part ne vaut certainement pas, aux yeux des Anglais, l'honneur d'encourager le genre humain par leur exemple. Aucun peuple de l'Europe ne peut être mis en parallèle avec les Anglais depuis 1688. Il y a 120 ans de perfectionnement social entre eux et le continent. La vraie liberté, établie depuis plus d'un siècle chez un grand peuple, a produit les résultats dont nous sommes les témoins. Mais, dans l'histoire précédente de ce peuple, il y a plus de violence, plus d'inégalité, et à quelques égards, plus d'esprit de servitude encore que chez les Français. Les Anglais citent toujours la Grande Charte comme le plus honorable titre de leur antique généalogie d'hommes libres. Et en effet, c'est une chose admirable qu'un tel contrat entre la nation et le roi. Dès l'année 1215, la liberté individuelle et le jugement par juré y sont énoncés dans les termes dont on pourrait se servir de nos jours. À cette même époque du Moyen Âge, comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, il y eut un mouvement de liberté dans toute l'Europe. Mais les lumières et les institutions qu'elles font naître n'étaient point encore répandues. Il ne résulta rien de stable de ce mouvement en Angleterre jusqu'en 1688, c'est-à-dire près de 5 siècles après la Grande Charte. Pendant toute cette période, elle n'a pas cessé d'être enfreinte. Le successeur de celui qui l'avait signée, le fils de Jean sans Terre, Henri III, fit la guerre à ses barons, pour s'affranchir des promesses de son père. Les barons, dans cette circonstance, avaient protégé le tiers-état pour s'appuyer de la nation contre l'autorité royale. Le successeur de Henri III, Édouard Ier, jura 11 fois la Grande Charte, ce qui prouve qu'il y manqua plus souvent encore. Ni les rois, ni les nations ne tiennent les serments politiques que lorsque la nature des choses commande aux souverains et satisfait les peuples. Guillaume le Conquérant avait détrôné Harold. La maison de Lancastre, à son tour, renversa Richard II. Et l'acte d'élection qui appelait Henri IV au trône fut assez libéral pour être imité depuis par Lord Somers en 1688. À l'avènement de Henri IV en 1399, on voulut renouveler la Grande Charte, et du moins le roi promit de respecter les franchises et les libertés de la nation. Mais la nation ne sut pas alors se faire respecter elle-même. La guerre avec la France, les guerres intestines entre les maisons d'York et de Lancastre, donnèrent lieu aux scènes les plus sanglantes, et aucune histoire ne nous offre autant d'atteintes portées à la liberté individuelle, autant de supplices, autant de conjurations de toute espèce. L'on finit, du temps du fameux Warwick, le faiseur de rois, par porter une loi qui enjoignait d'obéir au souverain de fait, soit qu'il le fût ou non de droit, afin d'éviter les condamnations arbitrairement judiciaires auxquelles les changements de gouvernement devaient donner lieu. Vint ensuite la maison de Tudor, qui, dans la personne de Henri VII, réunissait les droits des York et des Lancastres. La nation était fatiguée des guerres civiles. L'esprit de servitude remplaça pour un temps l'esprit de faction. Henri VII, comme Louis XI et le cardinal de Richelieu, subjugua la noblesse et sut établir le despotisme le plus complet. Le Parlement, qui depuis a été le sanctuaire de la liberté, ne servait alors qu'à consacrer les actes les plus arbitraires par un faux air de consentement national, car il n'y a pas de meilleur instrument pour la tyrannie qu'une assemblée quand elle est avilie. La flatterie se cache sous l'apparence de l'opinion générale, et la peur en commun ressemble presque à du courage, tant on s'anime les uns les autres dans l'enthousiasme du pouvoir. Henri VIII fut encore plus despote que son père, et plus désordonné dans ses volontés, ce qu'il adopta de la Réformation le servit merveilleusement pour persécuter tout à la fois les catholiques orthodoxes et les protestants de bonne foi. Il entraîna le Parlement anglais à tous les actes de servitude les plus humiliants. Ce fut le Parlement qui se chargea des procès intentés aux innocentes femmes de Henri VIII. Ce fut lui qui sollicita l'honneur de condamner Catherine Howard, déclarant qu'il n'avait pas besoin de la sanction royale pour porter le bill d'accusation contre elle, afin d'épargner au roi son époux, disait-on, la douleur de la juger. Thomas Morus, l'une des plus nobles victimes de la tyrannie de Henri VIII, fut accusé par le Parlement, ainsi que tous ceux dont le roi voulut la mort. Les deux chambres prononcèrent que c'était un crime de lèse-majesté de ne pas regarder le mariage du roi avec Anne de Clèves comme légalement dissous. Et le Parlement, se dépouillant lui-même, décréta que les proclamations du roi devaient avoir force de loi et qu'elles seraient considérées même comme ayant l'autorité de la révélation en matière de dogme. Car Henri VIII s'était fait le chef de l'Église en Angleterre, tout en conservant la doctrine catholique. Il fallait alors se dégager de la suprématie de Rome sans s'exposer à l'hérésie en fait de dogme. C'est dans ce temps que fut faite la sanglante loi des six articles, qui établissait les points de doctrine auxquels il fallait se conformer. La présence réelle, la communion sous une espèce, l'inviolabilité des vœux monastiques, malgré l'abolition des couvents, l'utilité des messes particulières, le célibat du clergé, et la nécessité de la confession auriculaire. Quiconque n'admettait pas le premier point était brûlé comme hérétique, et qui rejetait les cinq autres, mis à mort comme félon. Le Parlement remercia le roi de la divine étude, du travail et de la peine que sa majesté avait consacrés à la rédaction de cette loi. Néanmoins, Henri VIII ouvrit le chemin à la réformation religieuse. Elle fut introduite en Angleterre par ses amours coupables, comme la Grande Charte avait dû son existence aux crimes de Jean sans terre. Ainsi cheminent les siècles, marchant, sans le savoir, vers le but de la destinée humaine. Le Parlement, sous Henri VIII, violenta les consciences aussi bien que les personnes. Il ordonna, sous peine de mort, de considérer le roi comme chef de l'Église. Et tous ceux qui s'y refusèrent périrent martyrs de leur courage. Les parlements changèrent quatre fois la religion de l'Angleterre. Ils consacrèrent le schisme de Henri VIII et le protestantisme d'Henri VI. et lorsque la reine Marie fit jeter dans les flammes des vieillards, des femmes, des enfants, espérant ainsi plaire à son fanatique époux, ces atrocités furent encore sanctionnées par le Parlement, naguère protestant. La réformation reparut avec Élisabeth, mais l'esprit du peuple et du Parlement n'en fut pas moins servile. Cette reine eut toute la grandeur que peut donner un despotisme conduit avec modération. On pourrait comparer le règne d'Élisabeth en Angleterre à celui de Louis XIV en France. Élisabeth avait plus d'esprit que Louis XIV, et se trouvant à la tête du protestantisme, dont la tolérance est le principe, elle ne put, comme le monarque français, joindre le fanatisme au pouvoir absolu. Le Parlement, qui avait comparé Henri VIII à Samson pour la force, à Salomon pour la prudence et à Absalom pour la beauté, envoya son orateur déclarer à genoux à la reine Élisabeth qu'elle était une divinité. Mais, ne se bornant pas à ses servilités fades, il se souilla d'une flatterie sanglante en secondant la criminelle haine d'Élisabeth contre Marie Stuart. Il lui demanda la condamnation de son ennemi, voulant ainsi dérober à la reine la honte de ce qu'elle désirait. Mais il ne fit que se déshonorer à sa suite. Le premier roi de la maison de Stuart, aussi faible, quoique plus régulier, dans ses mœurs que le successeur de Louis XIV, professa constamment la doctrine du pouvoir absolu, sans avoir dans son caractère de quoi la maintenir. Les lumières s'étendaient de toutes parts. L'impulsion donnée à l'esprit humain au commencement du XVIe siècle se propageait de plus en plus. La réforme religieuse fermentait dans toutes les têtes. Enfin, la révolution éclata sous Charles Ier. Les principaux traits d'analogie entre la révolution d'Angleterre et celle de France sont un roi conduit à l'échafaud par l'esprit démocratique, un chef militaire s'emparant du pouvoir, et la restauration de l'ancienne dynastie. Quoique la réforme religieuse et la réforme politique aient beaucoup de rapports ensemble, cependant, quand le principe qui met les hommes en mouvement tient de quelque manière à ce qu'ils croient leur devoir, ils conservent plus de moralité que quand leur impulsion n'a pour mobile que le désir de recouvrer leurs droits. La passion de l'égalité était pourtant telle en Angleterre qu'on mit la princesse de Gloucester, fille du roi, en apprentissage chez une couturière. Plusieurs traits, non moins étranges, dans ce genre, pourraient être cités, quoique la direction des affaires publiques, pendant la Révolution d'Angleterre, ne soit pas descendue dans des classes aussi grossières qu'en France. Les communes, ayant acquis plus tôt de l'importance par le commerce, étaient plus éclairées. Les nobles, qui de tout temps s'étaient ralliés à ces communes, contre les usurpations du trône, ne faisait point caste à part comme chez les Français. La fusion des États, qui n'empêche point la distinction des rangs, existait déjà depuis longtemps. En Angleterre, la noblesse de seconde classe était réunie par les communes. Note. Je rapporte ici le texte d'une adresse des communes sous Jacques Ier, qui démontre évidemment cette vérité. Déclaration de la Chambre des communes sur ses privilèges, écrite par un comité choisi pour présenter cette adresse à Jacques Ier. Les communes de ce royaume contiennent non seulement les citoyens, les bourgeois, les cultivateurs, mais aussi toute la noblesse inférieure du royaume, chevaliers, écuyers, gentilshommes. Plusieurs d'entre eux appartiennent aux premières familles. D'autres sont parvenus, par leur mérite, au grand honneur d'être admis au conseil privé de votre majesté, et ont obtenu des emplois très honorables. Enfin, excepté la plus haute noblesse, les communes renferment toute la fleur et la puissance de votre royaume. Elles soutiennent vos guerres par leur personne et vos trésors par leur argent. Leurs cœurs font la force et la stabilité de votre royaume. Tout le peuple, qui consiste en plusieurs millions d'hommes, est représenté par nous de la Chambre des communes. Reprise. Les familles de pères étaient seules à part, tandis qu'en France on ne savait où trouver la nation, et que chacun était impatient de sortir de la masse pour entrer dans la classe des privilégiés. Sans aborder les discussions religieuses, l'on ne saurait nier aussi que les opinions des protestants, étant fondées sur l'examen, ne soient plus favorables aux lumières et à l'esprit de liberté que le catholicisme, qui décide de tout d'après l'autorité, et considère les rois comme aussi infaillibles que les papes, à moins que les papes ne soient en guerre avec les rois. Enfin, et c'est sous ce rapport qu'il faut reconnaître l'avantage de la position insulaire, Cromwell n'imagina pas de faire des conquêtes sur le continent. Il n'excita point la colère des rois, qui ne se crurent point menacés par les essais politiques d'un pays sans communication immédiate avec la terre européenne. Encore moins les peuples prirent-ils parti dans la querelle, et les Anglais eurent l'insigne bonheur de n'avoir ni provoqué les étrangers, ni réclamé leur secours. Les Anglais disent, avec raison, qu'ils n'ont eu dans leur dernier trouble civil rien qui ressemble aux 18 mois de la terreur en France. Mais, en embrassant l'ensemble de leur histoire, l'on verra 3 rois déposés et tués, Édouard II, Richard II et Henri VI. Un roi assassiné, Édouard V, Marie d'Écosse et Charles Ier, périssant sur l'échafaud, des princes du sang royal, mourant de mort violente, des assassinats judiciaires, en plus grand nombre que dans tous les autres États de l'Europe, et je ne sais quoi de dur et de factieux qui n'annonçait guère les vertus publiques et privées dont l'Angleterre donne l'exemple depuis un siècle. Sans doute, on ne saurait tenir un compte ouvert des vices et des vertus des deux nations, mais, en étudiant l'histoire d'Angleterre, on ne commence à voir le caractère des Anglais, tel qu'il s'élève progressivement à nos yeux depuis la fondation de la liberté, que dans quelques hommes, pendant la Révolution et sous la Restauration. L'époque du retour des Stuarts et les changements opérés à leur expulsion offrent encore de nouvelles preuves de l'influence toute-puissante des nations. Charles II et Jacques II régnèrent, l'un arbitrairement, l'autre tyranniquement, et les mêmes injustices qui avaient souillé l'histoire d'Angleterre dans les temps anciens se renouvelèrent à une époque où cependant les Lumières avaient fait de très grands progrès. Mais le despotisme produit partout et en tout temps à peu près les mêmes résultats. Il ramène les ténèbres au milieu du jour. Les plus nobles amis de la liberté, Russell et Sidney, périrent sous le règne de Charles II, et bien d'autres moins célèbres furent de même condamnés à mort injustement. Russell refusa de racheter sa vie à la condition de reconnaître que la résistance au souverain, quelque despote qu'il soit, est contraire à la religion chrétienne. Algernon Sidney dit, en montant sur l'échafaud, « Je viens ici mourir pour la bonne vieille cause que j'ai chérie depuis mon enfance. » Le lendemain de sa mort, il se trouva des journalistes qui tournèrent en ridicule ces belles et simples paroles. La plus indigne de toutes les flatteries, celle qui livre les droits des nations au bon plaisir des souverains, se manifesta de toutes parts. L'université d'Oxford condamna tous les principes de la liberté et se montra 1000 fois moins éclairée au XVIIe siècle que les barons au commencement du XIIIe. Elle proclama qu'il n'y avait point de contrat mutuel, ni exprès, ni tacite, entre les peuples et les rois. C'est d'une ville destinée à être un foyer de lumière que partit cette déclaration qui mettait un homme au-dessus de toutes les lois divines et humaines, sans lui imposer ni devoir ni frein. Locke, jeune encore, fut banni de l'université pour avoir refusé son adhésion à cette doctrine servile, tant il est vrai que les penseurs, de quelque objet qu'ils s'occupent, s'accordent toujours sur la dignité de l'espèce humaine. Quoique le Parlement fût très obéissant, on avait encore peur de lui, et Louis XIV, sentant avec une sagacité remarquable qu'une constitution libre donnerait une grande force à l'Angleterre, corrompait non seulement le ministère, mais le roi lui-même, pour prévenir l'établissement de cette constitution. Ce n'était point cependant par la crainte de l'exemple qu'il ne voulait pas de liberté en Angleterre. La France était alors trop loin de tout esprit de résistance pour qu'il pût s'en inquiéter. C'est uniquement, et les pièces diplomatiques le prouvent, parce qu'il considérait le gouvernement représentatif comme une source de richesse et de puissance pour les Anglais. il fit offrir à Charles II 200 000 louis s'il voulait se déclarer catholique et ne plus convoquer de parlement. Charles II, et ensuite Jacques II, acceptèrent ces subsides, sans oser en tenir toutes les conditions. Les premiers ministres, les femmes de ces premiers ministres, recevaient des présents de l'ambassadeur de France, en promettant de soumettre l'Angleterre à l'influence de Louis XIV. Charles II aurait souhaité, est-il dit dans les négociations que Dalrymple a publiées, faire venir des troupes françaises en Angleterre pour s'en servir contre les amis de la liberté. On a peine à se convaincre de la vérité de ces faits quand on connaît l'Angleterre du XVIIIe et du XIXe siècle. Il y avait encore des restes de l'esprit d'indépendance chez quelques membres du Parlement, mais comme la liberté de la presse ne les soutenait pas dans l'opinion, ils ne pouvaient opposer cette force à celle du gouvernement. La loi d'habeus corpus, celle qui fonde la liberté individuelle, fut portée sous Charles II, et cependant il n'y eut jamais plus de violation de cette liberté que sous son règne, car les lois, sans les garanties, ne sont rien. Charles II se fit livrer tous les privilèges des villes, toutes leurs chartes particulières. Rien n'est si facile à l'autorité centrale que d'écraser successivement chaque parti. Les juges, pour plaire au roi, donnèrent aux crimes de haute trahison une extension plus grande que celle qui avait été fixée 3 siècles auparavant, sous le règne d'Édouard III. À cette sérieuse tyrannie se joignaient autant de corruption, autant de frivolité qu'on n'en a pu reprocher aux Français à aucune époque. Les écrivains, les poètes anglais, qui sont maintenant inspirés par les sentiments les plus vrais et les vertus les plus pures, étaient sous Charles II des fats, quelquefois tristes, mais toujours immoraux. Rochester, Wycherley, Congreve, surtout, font de la vie humaine des tableaux qui semblent la parodie de l'enfer. Là, les enfants plaisantent sur la vieillesse de leur père. Là, les frères cadets aspirent à la mort de leur frère aîné. Le mariage y est traité selon les maximes de Beaumarchais. Mais il n'y a point de gaieté dans ces saturnales du vice. Les hommes les plus corrompus ne peuvent rire à l'aspect d'un monde dont les méchants eux-mêmes ne sauraient se tirer. La mode, qui est encore la faiblesse des Anglais dans les petites choses, se jouait alors de ce qu'il y a de plus important dans la vie. Charles II avait sur sa cour, et sa cour avait sur son peuple, l'influence que le régent a exercée sur la France. Et quand on voit dans les galeries d'Angleterre les portraits des maîtresses de ce roi, méthodiquement rangés ensemble, on ne peut se persuader qu'il n'y ait guère plus de 100 ans qu'une frivolité si dépravée secondait chez les Anglais le pouvoir le plus absolu. Enfin, Jacques II, qui manifestait ouvertement les opinions que Charles II faisait avancer par des mines souterraines, régna pendant 3 ans avec une tyrannie, heureusement sans mesure, puisque c'est à ses excès même que la nation a dû la révolution paisible et sage qui a fondé sa liberté. L'historien Hume, écossais, partisan des Stuarts et défenseur de la prérogative royale, comme un homme éclairé peut l'être, a plutôt adouci qu'exagéré les forfaits commis par les agents de Jacques II. J'insère ici seulement quelques-uns des traits de ce règne, tels qu'ils sont racontés par Hume. Guillemets. La cour avait inspiré des principes si arbitraires à tous ses serviteurs que Feversham, immédiatement après la victoire de Segemore, fit pendre plus de 20 prisonniers et qu'il continuait ses exécutions lorsque l'évêque de Bath et de Wells lui représenta que ces malheureux avaient droit à être jugés dans les formes et que leur supplice passerait pour un véritable meurtre. Mais ces remontrances n'arrêtèrent pas l'humeur féroce du colonel Kirk, soldat de fortune qui, dans un long service à Tanger et par la fréquentation des morts, avait contracté un fonds d'inhumanité plus rare en Europe et chez les nations libres. En entrant dans Bridgewater, il fit conduire 19 prisonniers au gibet sans la moindre information. Ensuite, s'amusant de sa propre cruauté, il en fit exécuter un certain nombre pendant qu'il buvait avec ses compagnons à la santé du roi ou de la reine ou du grand juge Geoffrey. Et voyant leurs pieds tressaillir dans les convulsions de la mort, il s'écria qu'il fallait de la musique pour leur danse et donna l'ordre que les tambours et les trompettes se fissent entendre. Il lui vint dans l'esprit de faire pendre 3 fois le même homme, pour s'instruire, disait-il, par cette bizarre expérience. Et chaque fois il lui demandait s'il ne se repentait pas de son crime. Mais le malheureux, s'obstinant à protester, malgré ce qu'il avait souffert, qu'il était toujours disposé à s'engager dans la même cause, Kirk le fit pendre dans les chaînes. Mais rien n'égale la perfidie et la cruauté du trait que nous allons raconter. Une jeune fille demanda la vie de son frère en se jetant aux pieds du colonel Kirk, ornée de toutes les grâces de la beauté et de l'innocence en pleurs. Le cruel sentit s'enflammer ses désirs, sans être attendri par l'amour ou par la clémence. Il promit ce qu'elle demandait, à condition qu'elle consentirait à tout ce qu'il souhaitait. Cette pauvre sœur se rendit à la nécessité qu'on lui imposait, mais Kirk, après avoir passé la nuit avec elle, lui fit voir le lendemain par la fenêtre le frère adoré pour lequel elle avait sacrifié sa vertu, pendu à un gibet qu'on avait élevé secrètement pendant la nuit. La rage et le désespoir s'emparèrent de cette malheureuse fille et la privèrent de sa raison. Le pays entier, sans distinction de coupable et d'innocent, fut exposé aux ravages de ce barbare. Les soldats furent lâchés pour y vivre à discrétion, et son propre régiment, instruit par son exemple, excité par ses exhortations, se distingua par des outrages recherchés. Il les nommait, ironiquement, ses agneaux, terme dont le souvenir s'est conservé longtemps avec horreur dans cette partie de l'Angleterre. L'implacable Jeffrey lui succéda bientôt et fit voir que les rigueurs judiciaires peuvent égaler ou surpasser les excès de la tyrannie soldatesque. Cet homme, qui se livrait par goût à la cruauté, s'était déjà fait connaître dans plusieurs procès auxquels il avait présidé. Mais il partait avec une joie sauvage pour cette nouvelle commission, qui lui présentait une moisson de mort et de destruction. Il commença par la ville de Dorchester, où 30 rebelles furent traduits à son tribunal. Il les exhorta, mais en vain, à lui épargner, par une confession volontaire, la peine de faire leur procès. 29 furent déclarés coupables, et, pour punir en même temps leurs crimes et leur désobéissance, il les fit conduire immédiatement au supplice. Il n'y en eut pas moins de 292 qui reçurent la sentence de mort, et 80 furent exécutés sur le champ. Exeter devint ensuite le théâtre de ces cruautés. De 243 personnes à qui l'on fit leur procès, la plus grande partie fut condamnée et livrée aux exécuteurs. Il y transféra de là son tribunal à Taunton et à Wells. La consternation le précédait partout. Ces menaces avaient frappé les jurés d'une telle épouvante qu'ils donnaient leur verdict avec précipitation, et plusieurs innocents partagèrent le sort des coupables. En un mot, outre ceux qui furent massacrés par les commandants militaires, on en compte 251 qui périrent par le bras de la justice. Tout le pays était jonché des membres épars des rebelles. Dans chaque village, on voyait exposé le cadavre de quelque misérable habitant. Et l'inhumain Jeffrey déployait toutes les rigueurs de la justice, sans aucun mélange de pitié. De toutes les exécutions de cette affreuse époque, les plus atroces furent celles de Madame Gaunt et de Lady Lille, accusées d'avoir donné asile à des traîtres. Madame Gaunt était une anabaptiste, connue par une bienfaisance qui s'étendait aux personnes de tous les partis et de toutes les sectes. Un rebelle qui connaissait son humanité eut recours à elle dans sa détresse, et trouva un refuge dans sa maison. Bientôt après, ayant entendu parler d'un acte qui offrait une amnistie et des récompenses à ceux qui découvriraient des criminels, il eut la bassesse de trahir sa bienfaitrice et de déposer contre elle. Il obtint grâce pour sa perfidie. Elle fut brûlée vive pour sa charité. Lady Lille était la veuve d'un régicide qui avait joui de beaucoup de faveurs et de crédits sous Cromwell. Elle était poursuivie pour avoir donné asile à 2 rebelles après la bataille de Sedgemoor. En vain, cette femme âgée, disait-elle pour sa défense, que le nom de ces rebelles ne se trouvait dans aucune proclamation, qu'ils n'étaient condamnés par aucune sentence, que rien ne prouvait qu'elle eût pu les connaître pour des partisans de Monmouth, que malgré le nom qu'elle portait, l'on savait bien que son cœur avait toujours été attaché à la cause royale, que personne n'avait versé plus de larmes qu'elle sur la mort de Charles Ier, que son fils, élevé par elle et dans ses principes, avait combattu lui-même contre les rebelles qu'on l'accusait d'avoir recélés. Ces arguments n'émurent point Jeffery, mais ils agirent sur les jurés, qui voulurent deux fois prononcer un verdict favorable, et furent deux fois renvoyés avec des reproches et des menaces. Enfin, on leur arracha la fatale sentence, et elle fut exécutée. Le roi fut sourd à toute prière, et crut s'excuser en répondant qu'il avait promis à Jeffery de ne pas faire grâce. Ceux qui échappaient à la mort étaient condamnés à des amendes qui les réduisaient à la mendicité, et si leur pauvreté les rendait incapables de payer, ils subissaient le fouet ou la prison. Le peuple aurait souhaité, dans cette occasion, pouvoir distinguer entre Jacques et ses agents, mais on prit soin de prouver qu'ils n'avaient rien fait que d'agréable à leur maître. Jeffery, à son retour, fut créé pair pour ses éminents services, et bientôt après revêtu de la dignité de chancelier. Fin des guillemets. Voilà ce qu'un roi pouvait faire souffrir à des Anglais, et voilà ce qu'il supportait. C'est en 1686 que l'Angleterre donnait à l'Europe de tels exemples de barbarie et de servitude. Et, deux ans après, lorsque Jacques II fut déposé et la Constitution établie, commença cette période de 128 ans jusqu'à nos jours, dans laquelle il n'y a pas eu une session du Parlement qui n'ait apporté un perfectionnement à l'ordre social. Jacques II était bien coupable. Cependant, on ne peut se dissimuler qu'il y eut de la trahison dans la manière dont il fut abandonné. Ses filles lui enlevèrent la couronne. Les personnes qui lui avaient montré le plus d'attachement et qui lui devaient le plus de reconnaissance le quittèrent. Les officiers manquèrent à leur serment, mais, selon une épigramme anglaise, le succès ayant excusé cette trahison, on ne l'appela plus ainsi. Treason does never prosper. What the reason? Why, when it prospers, none deve call it treason. La trahison ne réussit jamais. Quelle en est la raison? La raison, c'est que, lorsqu'elle réussit, nul n'ose l'appeler trahison. Guillaume III était un homme d'État, ferme et sage, accoutumé par son emploi de Stadthouder en Hollande à respecter la liberté, soit qu'il l'aimât naturellement ou non. La reine Anne, qui lui succéda, était une femme sans talent et ne tenant avec force qu'à des préjugés. Quoiqu'elle fût en possession d'un trône qu'elle aurait dû céder à son frère, d'après les principes de la légitimité, elle conservait un faible pour la doctrine du droit divin. Et bien que le parti des amis de la liberté l'eût faite reine, il lui inspirait toujours un éloignement involontaire. Cependant, les institutions politiques prenaient déjà tant de force qu'au dehors comme au dedans, ce règne a été l'un des plus glorieux de l'Angleterre. La maison de Hanovre acheva de garantir la réforme religieuse et politique. Néanmoins, jusqu'après la bataille de Culloden en 1746, l'esprit de faction l'emporta encore souvent sur la justice. La tête du prince Édouard fut mise à prix pour 30 000 louis, et tant qu'on craignit pour la liberté, l'on eut de la peine à se résoudre au seul moyen de l'établir, c'est-à-dire au respect de ses principes, quelles que soient les circonstances. Mais si on lit avec soin le règne des trois Georges, on y verra que la morale et la liberté n'ont cessé de faire des progrès. C'est un beau spectacle que cette constitution, vacillante encore en sortant du port, comme un vaisseau qu'on lance à la mer, et déployant enfin ses voiles, en donnant l'essor à tout ce qu'il y a de grand et de généreux dans l'âme humaine. Je sais que les Anglais prétendront qu'ils ont eu de tout temps plus d'esprit de liberté que les Français, que, dès César, ils ont repoussé le joug des Romains, et que le code de ces Romains, rédigé sous les empereurs, ne fut jamais introduit dans les lois anglaises. Il est également vrai qu'en adoptant la Réformation, les Anglais ont fondé tout à la fois, d'une manière plus ferme, la morale et la liberté. Le clergé, ayant toujours siégé au Parlement avec les seigneurs laïcs, n'a point eu de pouvoir distinct dans l'État. Et les nobles anglais se sont montrés plus factieux, mais moins courtisans que les nobles français. Ces différences, on ne saurait le nier, sont à l'avantage de l'Angleterre. En France, la beauté du climat, le goût de la société, tout ce qui embellit la vie a servi le pouvoir arbitraire, comme dans les pays du Midi où les plaisirs de l'existence suffisent à l'homme. Mais une fois que le besoin de la liberté s'est emparé des esprits, les défauts mêmes qu'on reproche aux Français, leur vivacité, leur amour-propre, les attachent davantage à ce qu'ils ont résolu de conquérir. Ils sont le troisième peuple, en comptant les Américains, qui s'essayent au gouvernement représentatif, et l'exemple de leurs devanciers commence enfin à les diriger. De quelque manière que l'on considère chaque nation, on y trouve toujours ce qui lui rendra le gouvernement représentatif non seulement possible, mais nécessaire. Examinons donc l'influence de ce gouvernement dans le pays qui, le premier, a eu la gloire de l'établir.